France Culture.
Tout de suite, le journal de la rédaction. Jeanne Serin, bonjour.
Bonjour Marina, bonjour à toutes et à tous. Les États-Unis et l'Europe sont faits pour être ensemble. Un an après les saillies de J.D. Vance, le secrétaire d'État américain Marco Rubio rassure le vieux continent à la conférence de Munich sur la sécurité. Le fils du dernier Shah d'Iran, Reza Pahlavi, appelle les Iraniens à reprendre leur mobilisation. Alors que des mobilisations contre Téhéran sont prévues aujourd'hui à l'étranger, on en parle ce midi avec notre invité, le spécialiste de l'Iran, Thierry Coville. En France, un jeune homme de 23 ans, proche d'un collectif d'extrême droite, toujours entre la vie et la mort. Après une agression survenue jeudi à Lyon, nous serons sur place. Et puis à la fin de ce journal, nous partons à Pantin, où l'un des théâtres historiques de la ville est menacé. Une pétition pour conserver le site a déjà récolté plus de 3000 signatures. Son discours avait fait l'effet d'une claque aux Européens. Il y a près d'un an, le vice-président américain J.D. Vance montait à la tribune de la conférence de Munich pour une allocution à charge contre le vieux continent, confirmant la rupture dans les relations transatlantiques. Sébastien Baer, bonjour.
Bonjour.
Correspondant de France Culture en Allemagne cette année à Munich, c'est Marco Rubio qui conduisait la délégation américaine et cette fois, le chef de la diplomatie américaine a délivré un message bien plus apaisé.
Ah oui, c'est même un plaidoyer pour l'Europe auquel s'est livré Marco Rubio. L'Europe, patrie de Mozart, de Shakespeare, de Michel-Ange et des Beatles, a-t-il dit, terre d'aventuriers et de colons qui ont contribué à façonner les États-Unis, dit encore le secrétaire d'État.
Nous sommes unis par les liens les plus profonds que des nations puissent partager, forgés par des siècles d'histoire commune. Même si nous sommes prêts, si nécessaire, à agir seuls, nous préférons agir avec vous, nos amis, ici en Europe. Nous serons toujours les enfants de l'Europe.
Autrement dit, il faut maintenir l'amitié entre l'Europe et les États-Unis, un discours d'apaisement qui contraste avec l'offensive verbale du vice-président américain J.D. Vance à cette même tribune l'an passé. Marco Rubio n'oublie pas pour autant de transmettre quelques messages aux dirigeants européens.
Nous ne voulons pas que nos alliés soient faibles, car cela nous affaiblit. Nous voulons des alliés capables de se défendre pour qu'aucun adversaire ne soit jamais tenté de tester notre force collective. Nous, Américains, pouvons parfois paraître un peu directs et pressants dans nos conseils, mais c'est parce que nous nous soucions profondément de votre avenir et du nôtre.
Nous ne cherchons pas à diviser, mais à revitaliser l'Europe, dit encore le chef de la diplomatie américaine, applaudi par une salle debout. Là encore, le contraste est grand avec le discours de J.D. Vance l'année dernière, qui avait laissé l'assistance sans aucune réaction.
Sébastien Baer, merci. Envoyé spécial à Munich pour France Culture avec les moyens techniques de Maël Larfassor. L'Europe doit passer à la vitesse supérieure en matière de défense et de sécurité, a de son côté rappelé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à la tribune de la conférence de Munich. Munich, où se déroulera aujourd'hui un rassemblement en soutien au peuple iranien. D'autres manifestations sont prévues à l'étranger. Le fils du dernier Shah d'Iran, Reza Pahlavi, en exil aux États-Unis, appelle le peuple iranien à de nouvelles mobilisations aujourd'hui et demande l'aide de Donald Trump pour en finir avec la République islamique. Pour évoquer cette journée de mobilisation avec nous ce midi, Thierry Coville, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur spécialiste de l'Iran à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques et auteur de « L'Iran, une puissance en mouvement » paru aux éditions Erol. Des manifestations à Munich, Toronto, Los Angeles. Est-ce que ces mobilisations à l'échelle mondiale ont une réelle portée en Iran ? Sont-elles entendues ?
Oui, je pense que ça a une portée, mais d'un autre côté, on sait très bien que les évolutions politiques futures de l'Iran, elles dépendront de ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran. Donc ces manifestations sont sûrement importantes, mais ce qui compte vraiment, c'est comment va réagir la population iranienne elle-même.
Et comment va réagir également le régime ? Est-ce que ces manifestations pourraient déclencher une riposte, un nouveau durcissement, un renforcement de la répression ?
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis effectivement la répression sanglante hein, en janvier, les manifestations telles qu'on les a connues justement en janvier se sont arrêtées. Il y a des protestations la nuit, hein, les gens crient de leur maison « mort à Khamenei » ou voilà des choses comme ça. Mais à mon avis, ça dépendra de la réaction de la population. Mais je pense pas que le régime il a assez de problèmes actuellement. Bon, la répression, il y a eu beaucoup d'arrestations, il y a eu je crois 2000 prisonniers qui ont été amnistiés, mais Si effectivement il y avait des mouvements de protestation comme on les a connus en janvier, le régime réprimerait, mais là je pense pas que ça va être vraiment le cas.
Reza Pahlavi, le fils du dernier chah d'Iran, ne cesse de s'exprimer depuis les États-Unis où il est en exil. Est-ce que sa voix porte sur place en Iran? Est-ce qu'elle a de l'écho?
Alors, elle a eu de l'écho, puisque justement ce qui s'est passé en janvier, c'était à son appel. Il y a eu un mouvement, faut bien le rappeler, il y a eu un mouvement de grève commencé par les bazaris suite à la dépréciation de la monnaie. Les protestations avaient plutôt l'air de s'atténuer et le fils du chah, Reza Pahlavi, a donné un mot d'ordre à ses partisans de sortir dans la rue et d'investir les centres-villes, etc. Et c'est ça qui a déclenché ces manifestations, puisqu'il a été suivi, donc il a des partisans en Iran, il y avait énormément, alors on ne sait pas combien, mais énormément de partisans dans toutes les villes d'Iran, on parle de plus d'une centaine de villes, donc il a des partisans en Iran. La grande question qui se pose, c'est ces partisans ne rassemblent pas sans doute tout l'Iran. Donc il a des partisans, mais est-ce qu'il représente la majorité des Iraniens? Ça, c'est une question qu'on se pose toujours. Il faut rappeler que aux dernières élections présidentielles, il y a eu quand même 20% des électeurs qui ont voté pour le candidat le plus radical. Il y a des gens qui veulent la démocratie et l'état de droit, mais qui sont pas forcément favorables à le retour d'une monarchie. Donc il a des partisans, mais qu'est-ce qui représente exactement la population iranienne? C'est la grande question.
Et Reza Pahlavi est à l'étranger, il a les mains libres pour s'exprimer, mais justement, quel est l'état de l'autre opposition, celle encore sur place en Iran?
Alors, la caractéristique de la politique iranienne, c'est que dès qu'il y avait une figure d'opposition qui risquait de faire de l'ombre au régime, qui était surtout en dehors du cercle de velléité farise, c'est-à-dire tous ceux qui croient à la supériorité du religieux sur le politique, eh ben, ils se retrouvaient en prison. Donc il n'y a pas une vraie figure d'opposition. Donc c'est ça le problème de l'Iran actuellement, c'est que vous avez un mécontentement profond dans la société, qui sont pas d'accord avec ce qui se passe. D'un autre côté, il n'y a pas une représentation, une figure qui pourrait porter ses demandes au plus haut niveau. Donc, l'opposition à l'intérieur du régime, ce qu'on appelle les réformateurs, est plutôt en crise, puisqu'ils ont quand même validé le narratif, pour parler comme spécialiste des autorités iraniennes, qui ont dit que ces manifestations étaient téléguidées de l'extérieur. Donc vraiment, les réformateurs, ils ont perdu beaucoup de crédit, encore plus lors de cette crise auprès de la population. Donc on va dire, il n'y a plus vraiment d'opposition à l'intérieur du système, même s'il y a des voix réformatrices qui ont d'ailleurs été arrêtées, qui ont dit, bon, ce qui s'est passé est très grave, il faut écouter la population, etc. Mais il n'y a plus vraiment d'opposition à l'intérieur de l'Iran.
Merci beaucoup Thierry Coville. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'Iran à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques et auteur de l'Iran, une puissance en mouvement, paru aux éditions Erol. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour violence aggravée alors qu'un jeune homme de 23 ans est toujours ce midi entre la vie et la mort. Quentin, proche du groupe identitaire Némésis, il a été passé à tabac jeudi soir par un groupe d'individus. L'extrême droite accuse des militants antifascistes. L'agression s'est déroulée en marge d'une manifestation du collectif qui dénonçait l'invitation à Sciences Po Lyon de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan. Timur Öztürk, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous vous êtes rendu ce matin dans le 5e arrondissement de Lyon à l'église Saint-Georges. Que fréquentait Quentin ?
C'est une paroisse traditionnaliste, messe en latin, en bord de Saône. Flore, étudiante de 26 ans, est venue assister à l'office ce matin, choquée, même si elle ne connaissait pas Quentin personnellement.
Moi je suis très triste parce que ça restait quand même un jeune qui méritait d'avoir une vie heureuse et qui se retrouve à être suivi dans une ruelle et tabassé à mort. Enfin, c'est complètement honteux et ça aurait plus ou moins être quelqu'un que je connaissais, donc beaucoup de tristesse et de colère.
Hier soir, lors de la messe, le prêtre a appelé les paroissiens à faire confiance à la justice, à ne pas chercher à la rendre eux-mêmes. Matteo, 21 ans, en uniforme des scouts d'Europe, est venu prier pour Quentin aujourd'hui.
Hier soir déjà, aujourd'hui aussi. Même si je le connaissais pas, on partage certains points communs, on est tous des catholiques, on est tous les deux convertis également. On ne doit pas laisser un climat comme ça continuer. C'est totalement inadmissible, finalement, ce qui se passe.
Devant l'église, un jeune homme refuse de parler à notre micro, mais explique qu'il connaît Quentin depuis 4 ans, confirme qu'il assurait parfois la sécurité des militantes du collectif Némésis et confie « Aujourd'hui, c'est la colère qui prend le pas sur la tristesse ».
Timorous Turc avec les moyens techniques de Laurent Macchietti. Ce n'est la plupart du temps pas un sujet de tension, mais il reste mis sous le tapis. L'argent, encore un tabou au sein du couple. C'est la conclusion d'une étude commandée par la Cité de l'économie à l'Institut Bonafide à l'occasion de la Saint-Valentin aujourd'hui. Une enquête réalisée fin janvier auprès de 900 personnes sur le partage des dépenses. Et Lola Salaman, parler finances avec son ou sa partenaire, c'est encore très compliqué.
Quand on aime, on ne compte pas. Voilà une injonction souvent répétée qui contribue à renforcer le tabou autour du couple et de l'argent. Alors beaucoup préfèrent ne pas parler budget avec leur partenaire, comme l'explique Vida Konikovic, directrice de la Cité de l'économie à Paris.
L'argent au sein du couple reste un angle mort du débat public, un impensé du couple, parce qu'il semble tellement s'opposer au romantisme que lorsqu'on est amoureux, souvent on évite ce sujet.
Et ce tabou renforce les inégalités de genre.
Si les femmes assument majoritairement la gestion des dépenses quotidiennes, ce sont plutôt les hommes qui portent les décisions financières structurantes et des investissements à long terme. Et on sait que le couple peut être le terrain de l'appauvrissement de l'un des partenaires. Ces déséquilibres liés aux écarts de revenus, aux sentiments, souvent chez les femmes, d'illégitimité financière, aux normes sociales persistantes, fragilisent l'indépendance économique des femmes. Et c'est donc important que chacun puisse s'en emparer.
Il y a aussi un aspect générationnel à cela. Aujourd'hui, les couples prennent plus facilement le temps de réfléchir aux questions d'argent et osent plus facilement en discuter.
On s'aperçoit que les modes de répartition des dépenses évoluent. 50% des couples font du 50-50, alors qu'on sait que les revenus sont rarement égaux. Dans 20% des cas, l'un paye presque tout. Et dans 30% des cas, la répartition se fait au prorata des revenus de chacun. Mais on s'aperçoit que chez les jeunes, chez les 18-24 ans, ce dernier mode atteint 41%.
Selon Vida Konikovic, il y a donc une recherche d'équité au sein du couple de plus en plus forte. L'étude note tout de même une situation assez apaisée des couples à l'argent, puisque 61% des Français en couple considèrent que ce n'est pas un sujet de tension pour eux.
C'est un petit théâtre atypique, un ancien lavoir transformé en usine au XXe siècle et depuis 30 ans, la scène d'une troupe de comédiens à Pantin, près de Paris. Le théâtre des Loges pourrait bien devoir définitivement fermer ses portes alors qu'une société immobilière a racheté le lieu en juin dernier et envisage de construire des logements sociaux et des espaces verts. Une pétition en ligne contre cette destruction a déjà récolté plus de 3000 signatures. La troupe espère bien sauver ce lieu que vous avez visité, Pablo Pérez.
Quand on passe les portes du Théâtre des Loges, on est accueilli par des tapis au sol, des affiches des précédents spectacles de la troupe collées sur les murs, mais aussi des photos qui témoignent, elles, du passé de cet ancien lavoir reconverti en scène culturelle.
On est une troupe, j'ai plaisir à dire, ouvrière.
On est aussi accueilli par Michel Mourtereau, chef de la troupe du Théâtre des Loges.
On a gratté, on a peint, on a mis des projecteurs. C'est la troupe qui a œuvré à tous les travaux. C'est pour ça que peut-être aujourd'hui le Théâtre des Loges, là je vais peut-être paraître aussi un peu présomptueux, mais a une âme. Cette âme, donc, c'est l'âme des lavandières, l'âme peut-être des hommes qui ont travaillé des pièces mécaniques ici, et peut-être qu'aujourd'hui il y a un peu celle de la troupe du Théâtre des Loges. Ça coince un peu, c'est bien, c'est comme dans les vieux châteaux. Alors tout au fond, vous avez tous les costumes, vous ne les apercevez pas, mais c'est classé du 16e.
Valentin, comédien, a rejoint Michel et la troupe il y a 10 ans.
Je suis entré ici, j'ai appris, je me suis formé. C'est ici que j'ai donné le plus clair de mon temps.
Le bail locatif du théâtre s'achève en mai 2027. Alors à quoi ressemblerait un futur hors de ce lieu?
Tant qu'il y a cette infime chance qu'on puisse rester debout, je ne l'envisage pas, parce que comme ça aussi, je m'assure peut-être de mettre toutes mes forces dans la lutte qu'on entame pour réussir à garder ces murs debout.
Et la troupe entend bien faire de cette lutte l'un des enjeux des prochaines élections municipales.
On est très dragué en ce moment.
De son côté, la mairie de Pantin n'a pas répondu à nos sollicitations.
Et une marche est organisée cet après-midi à partir de 14h à Pantin pour s'opposer à la destruction du Théâtre des Loges. Les opérations de dépannage se poursuivent dans des conditions très difficiles, indique Enedis. Alors que 182 000 clients sont toujours privés d'électricité après le passage de la tempête Niels, Météo France maintient la Gironde et le Lot-et-Garonne en vigilance rouge au cru. 14 autres départements sont en vigilance orange pour ce même phénomène. Plus largement, le temps cet après-midi, il est contrasté avec une accalmie dans l'ouest du pays et quelques éclaircies, mais la pluie devrait revenir dans la soirée. Partout ailleurs, le temps est plus nuageux et humide avec également de la neige en montagne et un risque d'avalanche très élevé sur la plupart des massifs alpins et la chaîne pyrénéenne. Les températures repassent en dessous des normales de saison, 5 à Lille et Paris cet après-midi, 8 à Lyon, 9 à La Rochelle et 12 degrés à Marseille.